biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biodiversité et Climat, même urgence, même combat, un cycle d'émissions initié voilà 6 mois par Bouygues Immobilier. Pour parler de ce sujet 6 mois après le premier acte, j'ai le plaisir de recevoir Olivia Conil-Lacoste, vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier. Guillaume Carlier, votre voisin, vous êtes directeur de la stratégie climat, également chez Bouygues Immobilier. C'est un binôme que nous recevons aujourd'hui. Et enfin, last not least, Gilles Boeuf, biologiste, écologue et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, il y a 6 mois exactement, mi-septembre, nous inaugurions avec vous le lancement de la stratégie biodiversité de Bouygues Immobilier avec ce thème biodiversité, mais aussi climat, même urgence, même combat. À l'époque, souvenez-vous, dans ce temps antédiluvien, le dernier rapport du GIEC avait paru quelques semaines plus tôt avec une actualité extrêmement forte puisqu'un messie occultait la médiatisation de ce rapport. Je veux bien évidemment non pas parler de religion, mais du footballeur transfuge d'un club espagnol vers le club de la capitale française. Nous ne commenterons pas, hélas, les résultats qui en ont suivi. Mais ce rapport, plus sérieusement, il confirmait avec certitude l'emballement du système climatique, pour résumer, avec notamment la recrudescence d'épisodes climatiques extrêmes. La ville de Cannes où nous sommes aujourd'hui, c'est important de rappeler que le MIPIM est localisé sur un territoire, celui de Cannes, s'est doté d'un plan résilience, notamment pour faire face aux canicules, au risque de submersion, mais aussi au risque migratoire en lien avec le climat à un horizon très très proche, puisque, si je ne m'abuse, c'est 2030. Le nouveau rapport du GIEC a paru en février. Et là, il est occulté par une très triste actualité, puisque c'est la guerre contre l'Ukraine. Et il nous indique, ce rapport, grosso modo, que d'ici 2040, on va subir une augmentation de température de plus de 1,5 à 2 degrés. C'est-à-dire que dans un peu plus de 10 ans, on va vivre franchement les effets de ce réchauffement climatique. Et il nous dit que si nous atteignons la neutralité carbone, ça reste un message optimiste, et nous le verrons, il faut rester optimiste, le réchauffement climatique cessera. Alors Guillaume, vous dirigez la stratégie climat de Bouygues Immobilier. De votre point de vue, vous qui, malgré cette actualité extrêmement chargée, devez, et vous êtes nourri de ce dernier rapport, qu'est-ce qu'il nous dit à nous, êtres humains, à nous, citoyens, et qu'est-ce qu'il vous dit à vous, Bouygues Immobilier, plus particulièrement ?
Bah, il est très, très ébranlant ce deuxième rapport, mais le premier l'était déjà. En fait, nous, on va partir d'un constat simple. On a même des fresques du climat au sein de l'entreprise. Et on débute toujours comme ça, avec l'évolution moyenne de la température. Et surtout, on leur explique, finalement, on leur présente, voilà, il y a 20 000 ans, on avait un contexte sibérien en Europe, où on a le climat actuel aujourd'hui. Mmh. Et bien, ce qu'on est en train de faire, finalement, ce basculement, ce changement irrémédiable, on le fait en 150 ans. Donc ce qu'on est en train de leur expliquer, et ça jette un effroi, je peux vous le garantir, dans une salle, c'est qu'en 150 ans, on bouleverse complètement le climat à notre main, entre guillemets, et qu'on va vers des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, si des choses qu'on vient de commencer à effleurer avec le deuxième rapport et qui nous met dans un monde du chaos, finalement.
Et là, il y a une urgence à agir. Et quand on parle de faire un premier bilan sur la biodiversité, mais on va reparler du climat au bout de 6 mois, ça n'est pas complètement exotique. C'est un pas de temps. De votre mise en mouvement, elle est aussi rapide que celle-là.
Oui, elle est aussi rapide. Alors même si on fonctionne effectivement dans un temps long, entre guillemets, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles vont générer des conséquences immédiates. Donc les choix sont à faire immédiatement pour véritablement prendre les bons virages.
Vous allez l'entendre, chères auditrices, chers auditeurs. Effectivement, ce que vous nous dites, Gilles, c'est que l'emballement de la machine climatique, comme le disait Guillaume, est extrêmement rapide, que l'érosion, l'effondrement du vivant est également extrêmement rapide, en perte d'espèces, en diminution drastique des individus dans chaque espèce, qu'elle soit sauvage ou plus proche de nous, qu'il y a des rétroactions communes, des dépendances entre biodiversité et climat, mais que ça n'est pas forcé, mais qu'en revanche, la nécessité de traiter ces deux sujets de front est essentielle. Et je me tourne à nouveau vers vous, Olivia et Guillaume. Guillaume, on va y revenir, vous dirigez la stratégie climat. Et Olivia, pour le développement durable et la RSE, vous avez formalisé une stratégie biodiversité. Et vous avez notamment annoncé à l'occasion du congrès de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, que Bouygues Immobilier était reconnue entreprise engagée pour la nature. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous avez fait depuis cette annonce qui date de notre dernier épisode il y a 6 mois?
Alors, très bonne question, auquel je vais essayer de répondre de manière synthétique. En fait, on est entreprise reconnue engagée pour la nature parce qu'on a déposé un plan d'action. Mmh. Ce plan d'action, il se base sur une analyse exhaustive de nos dépendances par rapport à la biodiversité et de nos impacts par rapport à la biodiversité. On s'est dit, mais quelque part, nous, promoteurs immobiliers, qui logeons, qui créons des espaces de vie, de travail, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce sujet-là, sachant qu'on sait qu'on a un impact important. Et on a déterminé 3 actions clés qu'on veut diffuser sur l'ensemble de nos projets. Et c'est ça qu'on a annoncé il y a quelques mois. Sur chaque projet immobilier, avoir une attention au vivant, à la biodiversité, ça passe par 3 actions. 1, je travaille avec un écologue en plus de mon paysagiste de manière systématique. 2, je travaille à maximiser les mètres carrés végétalisés perméables de mon opération et je diminue les mètres carrés imperméabilisés. Et 3, une fois que j'ai libéré l'espace, je travaille vraiment mes espaces verts qui doivent devenir non pas des espaces verts objets, mais des espaces vivants, accueil de biodiversité et de connexion à la nature pour les urbains. Alors ça, on l'a annoncé il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a changé depuis dans l'entreprise? Plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est une réalité dans les process de l'entreprise. Il n'y a plus un projet qui passe chez Bouygues Immobilier sans avoir analysé ses critères biodiversité et carbone aussi. Et les projets sont jugés là-dessus en plus de toute leur rentabilité économique. Une réalité dans les partenariats, parce que pour faire tout ça, il faut des partenariats solides. Une réalité dans les parcours de formation. 100% des collaborateurs formés à la biodiversité cette année, c'est un objectif qu'on va tenir et c'est lancé. Et puis enfin, une réalité en termes de mesures, parce que pour la première fois cette année chez Bouygues Immobilier, on a des indicateurs extra-financiers liés à la biodiversité, à notre calculette qui permet de voir les surfaces végétalisées et sur les projets. Voilà, donc quelques changements notables. Et quelque chose qui m'encourage tous les jours au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, les questions qu'on se pose sur ces sujets-là sont de plus en plus opérationnelles. Il y a quelques mois, on se posait la question de la stratégie, du positionnement, des leviers actionnés. Aujourd'hui, c'est très concret. Comment on doit travailler en amont avec le paysagiste jusque dans la phase d'exécution pour pas déshabiller la mariée, si je puis dire, une fois que le projet est lancé. Comment je forme mes partenaires, parce que je dois former mes collaborateurs, mais aussi mes partenaires. Quel dialogue il faut que je mette en place de manière régulière avec des sachants du vivant? Voilà, c'est sur des projets très très concrets. Hein. Donc c'est des questions qu'on se pose de plus en plus chez Bouygues Immobilier. Je ne suis plus la seule à me les poser, tous les opérationnels se la posent et donc ça c'est très encourageant.
Donc on le voit, une vision, une formalisation, une stratégie, il faut sortir le grand mot, des moyens qui sont mis en œuvre et ça va extrêmement vite, 6 mois, et des questions qui en appellent d'autres. Sur le sujet de la biodiversité, sur le sujet du climat, c'est toujours difficile de résumer une stratégie sur un tel sujet en quelques mots, mais en miroir, Guillaume, puisqu'on a bien vu que les deux sujets étaient parfois interdépendants, mais en tous les cas à traiter avec la même urgence, qu'en est-il en quelques mots de cette stratégie climat de Bouygues Immobilier?
En fait, elle est clairement sur deux points. Le premier, il est totalement en miroir de la stratégie biodiversité, c'est-à-dire que nous avons un enjeu majeur de décarbonation de la construction neuve, pour le coup. Et là, on sera au rendez-vous, comme on sait le faire, avec les meilleures pratiques et les meilleures solutions pour décarboner la tonne de CO2 en mètre carré. Ça, on saura le faire, comme tous les gens qui sont ici au MIPIM. Voilà. Mais je dirais que l'enjeu clé, c'est un peu cette vision d'après, cette vision que l'on prépare dès aujourd'hui, puisque Olivia le rappelle régulièrement, on est sur un temps long. Effectivement, un projet immobilier, c'est d'aménagement, c'est 10 ans, ce qui veut dire que les choix qu'on fait en 2022, on les voit en 2025, voire en 2030. Donc on est déjà au bout du chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, notre business model, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le rapport du GIEC, Il va être chamboulé, il est d'ores et déjà chamboulé. Le métier de sourcer un foncier pour y mettre un projet en béton, c'est fini, ça c'est derrière nous. Et on est sur autre chose. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là on est sur une autre posture qui est sur 2 niveaux, c'est-à-dire limiter l'empreinte carbone du citoyen. Hein. Comment on fait concrètement pour limiter une tonne d'un Français qui a 10 tonnes de CO2 par an? Pour qu'ils se logent, pour qu'ils mangent, pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils consomment. Ça, c'est très concret. Et Bouygues Immobilier peut apporter des solutions en termes de mobilité et autres. Ça, c'est juste fondamental. Et puis ensuite, c'est ce business model en tant que tel, c'est-à-dire que bah, il va falloir probablement anticiper une construction, un rythme de construction neuve qui va se ralentir et donc se réinventer. Ça veut dire quoi ? C'est trouver des nouveaux relais sur la rénovation, des nouvelles offres de services sur les usages pour trouver des nouveaux relais d'activité. Voilà ce que ça veut dire concrètement.
Alors, il y a, vous avez parlé de décarboner, il y a une expression, je sais que vous n'êtes pas toujours familier avec elle, c'est le béton bas carbone. Je voudrais simplement que vous développiez un peu cet exemple, parce que la novlangue, elle permet de rendre accessibles certains concepts. Et si je ne m'abuse, vous avez un quartier modèle qui s'appelle Les Fabriques à Marseille, où vous avez mis en œuvre et mis en avant un béton dit bas carbone. Il y a un rapport avec la géologie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient le béton et en quoi est-ce qu'il est moins carboné que les autres ? Et en quoi consiste cette opération pilote, Guillaume ? Parce que ça, c'est pour le coup une déclinaison très concrète de l'action.
Alors la pierre, typiquement, c'est vrai qu'on touche à un problème de sémantique. Le béton bas carbone, ça n'existe pas en tant que tel. Hein, c'est souvent taché de greenwashing. On va plutôt parler d'un béton à plus faible empreinte carbone. Qu'est-ce qui se passe dans un béton à plus faible empreinte carbone ? Vous enlevez le mal. Le mal, c'est le ciment. Mm-hmm. Le ciment, c'est du calcaire qui a mis des millions d'années à se former. Et que par un process industriel, vous allez décarbonater. C'est-à-dire qu'on passe du carbonate de calcium à du CO2 dans l'atmosphère en très, très, très grande quantité. Mais... c'est ça le mal. À partir du moment où vous retirez cette cause initiale, bah, de facto, scientifiquement, factuellement, vous avez un béton, un matériau qui est moins carboné, moins émissif que son cousin. Donc le béton à plus faible empreinte carbone est une solution. C'est une solution de transition qu'on utilise dans les fabriques, qu'on est en train d'utiliser effectivement sur d'autres projets, plus à la maille du diffus, hein, c'est-à-dire la petite opération de quelques dizaines de logements. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Donc le béton bas carbone, c'est le béton à plus faible empreinte carbone. Et il est surtout, c'est une solution de transition, donc ne l'oublions pas. Mais il fait partie d'une palette de solutions.
Oui, qui est beaucoup plus vaste.
Beaucoup plus vaste, dans lequel on doit s'inspirer pour décarboner cette construction neuve.
Alors, vous avez parlé de mobilité et... je voudrais vous interroger tous les trois sur la nouvelle signature de Bouygues Immobilier qui a été inaugurée au mois de septembre, au même moment que cette stratégie biodiversité. La vie commence ici, c'est fort. Ouais. Ça sonne très bien d'ailleurs, je trouve que voilà, on l'a plutôt bien adopté. Alors après la crise sanitaire, qui nous a obligés à être immobiles, hein, à nous distancier, c'est un mot qu'on commence à oublier, heureusement, il fallait vivre distancié, qui nous a éloignés de fait. Le dérèglement du système Terre, il est occulté par un dérèglement, on va le dire avec un peu d'euphémisme, le dérèglement des relations humaines, avec le retour de la guerre, qui est un mot qu'on avait quand même oublié, ce qui rappelle, sans faire de lecture historique un peu à l'emporte-pièce, quelques propos des années 30, on espère qu'on n'aura pas les mêmes conséquences. Parmi les conséquences de ce conflit qui est extrêmement triste, et on pense à nos amis ukrainiens, je crois qu'il y a un stand ici au MIPIM, d'Ukrainiens qui ont tenu à venir, ça contraint un certain nombre de nos concitoyens, notamment les plus fragiles, qui ont été durement touchés par les crises économiques successives, à limiter leur mobilité, de fait, par l'emballement des prix des carburants, de l'énergie d'une manière générale, et allons-y, des matériaux. Et ça résonne pour moi avec ce slogan qui devient peut-être plus qu'un slogan, c'était peut-être pas forcément prémonitoire, la vie commence ici. À défaut d'être prémonitoire, il résonne beaucoup. Guillaume, première question, peut-être plus carbonée, mais le parcours que vous avez dans le groupe Bouygues d'une manière générale, quelles conséquences est-ce qu'on peut imaginer sur les matériaux employés ? Est-ce que par exemple, ce renchérissement des matériaux, la raréfaction qu'on connaît, la difficulté à s'approvisionner pour des raisons notamment géopolitiques, est-ce que ça peut précipiter les choses sur le réemploi, par exemple ?
Oui, oui. C'est typiquement le genre d'électrochoc dont on avait besoin, dont on a besoin. On a la mauvaise idée en France d'être pétri de réglementations, de normes, de contrôles qui nous contraint en termes de réemploi. Et très clairement, oui, les signaux faibles qui deviennent forts aujourd'hui, les matériaux, cette pénurie, on l'avait un petit peu identifié, mais oui. Là, factuellement, elle nous saute à la figure. Oui, c'est les électrochocs dont on a besoin pour que toute la chaîne de valeur, ça part depuis le fabricant de matériaux jusqu'au bureau de contrôle, l'assureur, etc., pour qu'ils se mettent autour de la table en disant bah, maintenant, le bâtiment, c'est une banque de matériaux. Toute la mine, elle a déjà été extraite, entre guillemets, elle est sous nos yeux. Donc, on y va. On y va et très concrètement, oui, on maximise le réemploi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'électrochoc dont on avait probablement besoin pour accélérer le réemploi en tant que tel.
Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, l'électrochoc, c'est la conjugaison de toutes ces crises. Évidemment, ça n'est pas, hélas, la guerre, dont on espère qu'elle n'aura pas de contagion. Et surtout, pour celles et ceux qui la vivent en ce moment, qu'elle sera la plus courte et la moins forte possible. C'est un peu dérisoire que de le dire, mais on est de tout cœur avec eux. Alors, Olivia, dans la mesure où cette crise a incité à vivre plus près de chez soi, la vie qui commence, c'est aussi la biodiversité, le vivant. Est-ce que ça précipite aussi les choses, vous parliez des opérationnels, dans vos opérations de logement notamment, à considérer la connexion à la nature, le fait de regarder ce qui nous entoure. Vous parliez de jardins qui n'étaient pas uniquement figuratifs, mais qui pouvaient être plus vivants. Est-ce que vous constatez des choses ? Est-ce que la demande sociétale évolue ? Est-ce que vos équipes sont en demande de traduire, en fait, de voir quelque chose plus près de chez soi ?
Vous parliez d'immobilité. Je pense qu'on a tous vécu la crise et les confinements successifs qui font que, quelque part, ce désir, ce besoin de nature, notamment en ville, est devenu plus prégnant. Aujourd'hui, on voit par exemple que 81% des Français, quand ils achètent un logement, font beaucoup plus attention aux espaces extérieurs qui sont associés à ce logement-là. Ce n'est pas un hasard si on se demande de plus de nature. Il y a beaucoup d'études qui montrent aussi qu'être au contact de la nature, ça améliore le bien-être, ça rafraîchit, ça a énormément d'aménités positives dont on a besoin, absolument besoin en ville. Alors, notre rôle chez Bouygues Immobilier par rapport à ça, bah quelque part, c'est le rôle positif, hein, je pense, du promoteur immobilier qui a des leviers pour ramener cette nature en ville et pas du tout de manière décorative et de manière nature-objet, mais vraiment en introduisant une notion de vivant, de biodiversité. C'est pour ça, on le disait tout à l'heure, qu'il faut accompagner ça d'écologues. Il faut accompagner ça d'une vraie culture du vivant quand on va aller travailler les espaces verts, qui ne sont pas des espaces morts, mais bien des espaces vivants, et les associer à nos bâtiments. Donc nous, on rend en fait le bâti capable d'accueil, de vie, de biodiversité. Et on doit aussi avoir une attention particulière à ce qu'on transmet aux preneurs. Parce que bon, on est promoteur immobilier, on n'est pas une foncière, on ne reste pas dans la phase d'exploitation, à part dans certains projets, certaines de nos offres. Et donc du coup, cette transmission aux preneurs, elle va être très importante. Je vous prends juste un petit exemple. Nanterre Cœur Université, toiture végétalisée, une partie en paysage, il y avait 2500 m² de toiture, et il y avait des toitures au-dessus de deux grands bâtiments d'immeubles. On a mis en place une association pendant 2 ans pour animer ces jardins et faire prendre la mayonnaise, si je puis dire, et que la copropriété décide d'elle-même d'une gouvernance pour faire vivre ces jardins dans le temps. Voilà, ça va être un levier qu'on ne peut pas éluder. On parlait d'exploitation un peu plus tôt. Il faut absolument qu'on ait aussi cette vision de ce que va devenir le bâtiment. Donc rendre les bâtiments capables et puis accompagner les preneurs dans la mise en vie ensuite de ces jardins, de ce bâti.
Alors la mise en vie, j'ai envie de vous demander, Gilles, je prends un écho à vos propos récents dans une conférence, est-ce que vous vous sentez banane ? Alors, vous allez répondre à cette question et nos auditrices et nos auditeurs, le pari est tenu, Guillaume, vont comprendre pourquoi. Et ça, c'était une boutade, mais j'aimerais bien que vous l'explicitiez pour bien qu'on comprenne qu'on fait partie du vivant. Et puis la deuxième chose, comment est-ce que vous voyez, vous, le fait de se relocaliser ? Est-ce que c'est une voie pour que, en vivant, certains parlent d'expérience de nature, on ait une propension beaucoup plus forte à se mobiliser en faveur du climat et en faveur du vivant ?
Oui, on le voit très bien d'ailleurs, nous, au niveau des sciences participatives. C'est facile de séduire. Ça, on sait faire tous les quatre, là. On va séduire parce qu'on raconte une belle histoire. Ce qui est plus compliqué, c'est ensuite de fidéliser. Et ça, c'est pour ça que c'est très important ce que vous dites à l'instant, parce qu'on va lancer une opération, les gens vont y participer. Et s'ils participent et qu'ils trouvent que c'est vertueux, ils vont rapidement avoir envie de dire à leurs députés « Vous ne m'enlevez pas mon bout de forêt ou mon coin de champ ». Ça, ça joue. Deuxièmement, sur le retour du vivant en ville, on a quand même pas mal de papiers, dès les années 80-90, qui montraient que cette communion entre des humains et cette nature faisait que, par exemple, pour des gens au sein d'une grande ville qui avaient accès à un parc, on n'avait pas les mêmes maladies durant la fin de vie. On montrait aussi que ça gommait l'effet social des gens qui ne pouvaient pas partir en vacances. Ça, c'est très important. Et donc, la Bouygues a un rôle absolument essentiel. Ça veut dire que expliquer aux gens que la réharmonisation entre cette nature non humaine et la nature humaine, elle est essentielle. Alors pour venir à la banane, ce que je dis souvent, c'est qu'un bébé qui naît, un bébé humain qui naît, c'est 3/4 de flotte, là, faut quand même pas l'oublier. Et puis au moment où sa maman va l'ensemencer avec ses bactéries de son utérus, il y a des symbioses qui s'établissent. Et aujourd'hui, quand on compare les séquences ADN codant entre une banane, de la vigne ou un humain, ben c'est deux tiers d'analogie. Donc c'est intéressant. On vit d'un système qui vient du même système. Je disais ce matin que chaque humain a un petit océan au sein de lui-même. D'ailleurs, il y a un grand auteur breton qui s'appelle Yann Kefelec qui a repris ça récemment en disant, Gilles, il a dit, lui, effectivement, nous sommes un petit océan. Je pense que si tout le monde a ça en tête, ça changera un peu notre regard. Parce que dès le moment où on va admettre qu'on en fait partie, peut-être qu'on arrêtera de le détruire. Et là, vous avez un rôle essentiel. Entend aussi que, obligeant des gens à modifier peut-être leur projet initial en disant, ben, écoutez, là, on n'est pas d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment le rôle d'une boîte qui est responsable. Hein.
Alors, nous allons conclure incessamment sous peu. J'ai l'impression, Guillaume, que vous vous sentez océan, même si nous sommes au bord de la Méditerranée. Olivia, vous êtes optimiste, vous avez donc la banane, en tout cas deux tiers de sa séquence d'ADN. Et comme dirait Gilles, en citant Winston Churchill, gouverner c'est prévoir, et on le voit bien, il faut se projeter, mais pas seulement en remplissant des stratégies à l'horizon 2050 comme des injonctions ou des figures imposées, parce que ça participe un peu de, comme la novlangue, de figures imposées mais pas des faits, et qu'il faut être en mouvement, et ça vous le montrez, en réajustant en permanence avec un horizon qui est quand même très très fluctuant, donc une capacité d'adaptation comme le vivant. Et je conclurai par cette citation de mon voisin de plateau, Gilles Boeuf, qui a dit « Nous n'avons plus le temps d'être pessimistes ». Et donc soyons optimistes, ayons la banane dans tous les sens du terme. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Biodiversité et climat, même urgence, pas forcément d'interdépendance, pas à tous les coups, mais même combat, c'est certain. Le combat continue, la vie commence ici, et à bientôt pour un prochain épisode.
Biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.